RMC, cours numéro 1.
Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, votre podcast tennis, le podcast en quotidienne pendant toute la durée de Roland-Garros, pendant cette incroyable quinzaine de Roland-Garros qui n'en finit plus de nous étonner, qui n'en finit plus d'étonner Eric Salio. Salut Eric.
Salut Julien et salut Sarah. Tu aurais pu commencer par Sarah, surtout qu'elle a fait un gros effort pour revenir.
Ouais, c'est vrai. Pour cette dernière night session, elle est quand même là, Sarah. Salut Sarah.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Ouais, c'est un gros effort, les night sessions, moi aussi j'en ai marre.
Oui, et puis on a...
Moi aussi j'en ai marre.
C'était la dernière.
Oui, bah heureusement.
Et puis on a été un petit peu surpris par ce qui s'est passé, on va y revenir. On a été surtout surpris par ce qui s'est passé, les amis, sur le central cet après-midi. Je vous fais le pitch rapidement et on va rentrer dans le détail. Arina Sabalenka, numéro 1 mondial, éliminée par la Russe Diana Schneider, 3-6, 7-5, 6-0, après avoir servi pour le match à 6-3, 5-4. Elle a encaissé 10 jeux de suite pour prendre une roue de vélo dans le troisième. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter en quelques mots en version originale. La détresse de Sabalenka, on en reparle juste après.
No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but we'll see. We'll see in a few days. Hopefully I'll get back on track mentally.
Eric, les mots sont forts. Je sais pas, c'est même pas touché. Elle est au fond du trou, Arina Sabalenka. Là.
Oui, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que malheureusement, on en a souvent parlé dans nos podcasts, c'est une jeune fille qui rate beaucoup de titres. Elle se plante dans les finales de Chelem. On a eu cette année à Melbourne, elle mène 3-0 au troisième contre Rybakina et ça coince, mais même la finale l'an passé contre Coco. Donc là, quand elle dit « j'en ai marre, je pense à rien, je vais arrêter le tennis », bon, c'est vrai qu'elle est venue assez rapidement en conf. Ça peut se comprendre. Je pense qu'elle s'alignera à Wimbledon, ou alors je serais très étonné quand même. Mais oui, il y a une sorte de ras-le-bol et on se met à sa place parce qu'on se demande encore comment ce match lui a échappé, même s'il y a eu des circonstances très particulières dont on va évidemment reparler parce que ça mérite un débat approfondi. Et là, j'attends Sarah là-dessus. Mais on se met à sa place. Elle était ultra favorite. Et avant de donner la parole à Sarah, la conséquence de cette élimination, alors là je sors une stat, c'est pas la mienne, c'est Opta, je leur rends hommage, mais bon, vous avez constaté comme moi que les 8 demi-finalistes hommes et femmes, il n'y a aucun vainqueur de Grand Chelem, hein. Déjà ça c'est fort de café. C'est la dernière fois que c'était arrivé, c'était à Roland-Garros 1977,
il y a 50 ans.
C'est fou, je parle tout Chelem confondu, je parle pas que de Roland. Et à l'époque, les affiches, parce que j'ai vérifié quand même, les affiches de 77, alors là, ça va parler aux anciens qui nous écoutent, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais Brian Gottfried, Taylor Dent, Guillermo Vilas Ramirez, c'était les affiches côté hommes, et chez les filles, il y avait Mima Jozovec, Regina Marcikova, Florenta Mihai et Janet Newberry.
Je ne connais que Guillermo Vilas, hein, désolé.
On est d'accord, moi aussi. Non, mais on est d'accord. Pour revenir...
Pour Sabalenka, juste Sabalenka. 57 fautes directes, effondrement total, naufrage, t'appelles ça comme tu veux. Bah, comme le dit Eric, c'est les vieux démons qui ressurgissent.
Oui, alors elle a aussi déclaré qu'elle était tombée dans un trou profond et qu'elle s'enfonçait et qu'elle n'arrivait pas à remonter. Et c'est assez... je suis assez surprise. J'ai rarement entendu ce type d'analyse ou un type de confession, en fait. Oui, ça arrive de perdre le sens du match, de s'énerver contre quelque chose qui fait que tu sors de ta rencontre. Mais là, cet aveu de finalement d'être tombé dans un trou de l'extérieur, en fait, qui ressort, c'est que ce qui est assez frappant, on le savait, mais à ce point, elle n'a pas de plan B. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui n'est... Quand il faut juste mettre la balle dans le court, ne sait même plus la mettre dans le court. Sur les trois derniers jeux, à partir de 3-0, elle change de raquette parce qu'effectivement, le temps était humide, les balles étaient lourdes, ça n'avançait pas autant que les autres jours. Mais en fait, elle ne met plus une balle dans le court. Et
quand c'est à ce point-là mental, est-ce qu'il n'y a pas besoin, je ne sais pas, d'être... Parce qu'on sent qu'elle a une marche sur toutes les autres, mais elle est capable de s'aborder totalement. Est-ce qu'elle est entourée? Est-ce qu'elle ne doit pas être un peu plus ou un peu mieux entourée?
Après, là, tu me parles de quoi? Un entourage, une préparation
psychologique?
Oui, mais en fait, la psychologie, ce n'est que la conséquence de quelque chose. C'est pas ça qui l'a fait sortir. C'est qu'elle perd son tennis. Et comme elle n'a pas de plan B, elle ne sait plus à quoi se raccrocher. Et donc, en fait, c'est le petit vélo dans la tête. Et là, tu tombes. C'est-à-dire que comme elle c'est toujours la même chose, c'est de se dire oui, c'est mental. Mais quand tu es fort techniquement, quand tu sais faire plusieurs choses, quand tu es fort physiquement, en fait, ta tête, elle tient parce que ta tête, elle sait sur quoi s'appuyer. Là, en fait, à partir du moment où le service ne va même plus à l'intérieur du cours, le coup droit ne rentre. En fait, elle ne sait plus. Ben en fait, elle ne sait plus à quoi se raccrocher. Donc, ce n'est pas une question d'entourage, c'est qu'elle doit trouver un moyen de travailler de telle façon que quand tu sens mal la balle, ça arrive des jours, quand ce qui sort de ta raquette ne va pas aussi vite que d'habitude, quand ta puissance, avec des conditions extérieures, ne fait pas aussi mal, il faut avoir d'autres armes dans son tennis. Alors, si vous me parlez de moi, évidemment, quand je joue Serena Williams, je peux essayer tout ce que je veux. Je n'ai pas assez d'armes pour la battre, et effectivement. Mais elle les a, les armes, puisqu'elle est plus forte que les autres quand elle se sent bien. Donc, c'est là où elle doit construire un tennis, un plan B. Ouais.
Le plan B.
Le plan B. Il faut absolument qu'elle trouve un plan B quand t'es moins bien. Voilà.
Tu as parlé des conditions de jeu. On y vient, la polémique ou le débat. Le match s'est joué dans des conditions extrêmement venteuses qui nous ont un petit peu rappelé celle de la finale de l'an dernier perdue par Aryna Sabalenka face à Coco Gauff. Et en conférence de presse, elle n'en démordait pas. Ce match-là, on l'écoute, aurait dû se jouer toit fermé.
Je ne comprends absolument pas pourquoi le toit est resté ouvert alors que c'était extrêmement venteux. Tout fonctionnait assez bien pour moi pendant le match et ensuite j'ai perdu pied et du point de vue mental, après j'ai complètement perdu le fil. L'année dernière, ils avaient gardé le toit ouvert pendant mon match. Cette fois, je ne comprends absolument pas ce qu'il s'est passé, pourquoi ils ont laissé le toit ouvert, pourtant je menais. Mais ce n'était pas un bon tennis. Je ne comprends même pas comment les gens sont restés dans les gradins tellement le vent était fort. Je n'ai pas demandé à le baisser, il n'y avait pas besoin de faire la demande pour moi.
Eric, est-ce qu'on aurait dû, c'est vraiment une question philosophique de tennis, jouer avec le toit fermé, alors, non pas pour arranger Sabalenka, mais pour avoir une meilleure qualité de tennis?
C'est une vraie question et on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a aussi le premier quart masculin, il y a eu un événement assez important. Mais alors, elle dit ça, mais oui, quand même, elle mène 6-3, 5-4 avec le vent. Oui. Mais je me demande si le vent, progressivement, la part en du dingue. Quoi. Tu sais, c'est un truc qui rentre et tu n'arrives plus à sortir. Puis tu commences à faire une petite erreur et tu n'arrives plus à te sortir la tête. Ouais, mais là, c'est le vent qui m'a perturbé. Et je pense qu'elle s'est piégée toute seule. Maintenant, il y a eu un débat parce que c'est vrai que le spectacle proposé n'était pas bon. Les deux joueuses ont prononcé un mot qu'on entend rarement en conférence de presse, « dirty tennis ».
Oui, parce que son adversaire, la russe Diana Schneider, elle aussi dit qu'elle aurait préféré jouer toit fermé. Sarah, est-ce qu'on aurait dû fermer le toit pour voir un meilleur tennis ou on se dit que on est en extérieur, on est sur terre battue et c'est celui qui s'adapte le mieux qui gagne?
Bah oui, en fait, il n'y a même pas débat en fait. Le principe du tennis, le tennis c'est quoi? Le tennis, c'est un adversaire, un arbitre et des conditions extérieures. Voilà, tout simplement. Le tennis, c'est un jeu de frustration, par définition. Donc, et puis, elle est où l'équité? Parce que là, on parle d'aujourd'hui d'un quart de finale. Mais si ce match-là a lieu dans ces mêmes conditions-là, à un autre moment de la semaine, on fait quoi sur les autres cours?
On dit, on peut se dire que tout le monde joue sur le central. Donc finalement, les conditions sont les mêmes.
C'est pour ça que je vous dis.
C'est une affiche. On l'attend ce match. Et le spectacle, Sarah, je suis désolé. C'était pas bon, c'était pourri. Mets-toi 2 secondes à la place du spectateur qui a payé très cher sa place. Et on a vu la différence. Je finis. On a vu la différence avec le quart de finale entre Félix Auger-Aliassime et Coboli.
Qui a démarré toit ouvert, et qui a fermé au bout d'un set.
Et on n'a pas compris, le toit s'est fermé sur la balle de set à 6-5. Et j'ai regardé dehors, il ne pleuvait pas. On a eu un communiqué de la Fédé, on nous a expliqué, je vous le dirai tout à l'heure. Et tout d'un coup, il faut dire les choses, il faut être honnête, la qualité de jeu a augmenté. Le spectateur a pris du plaisir. Il n'y a aucun plaisir à voir des filles perturbées par les bourrasques de vent, faire des bois, envoyer des trucs 3 mètres derrière une faute courte. Alors vous allez me dire, oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi, il faut s'adapter. Mais je me demande si, à ce stade de la compète, on est quand même en quart, on est en demi-finale, est-ce qu'il ne faut pas penser show, spectacle? J'ai un exemple en tête. La demi-finale Nadal-Federer
tu sais, qui s'était joué à 13h. C'était une semaine horrible. Il y avait du... Bon, là, à l'époque, le toit n'était pas installé. Mais c'est horrible. Le spectacle était horrible. Bon, Nadal, c'est mieux adapté. OK, tant mieux. Champion... Mais c'était pénible à regarder, quoi. Moi, j'ai pris aucun plaisir.
Tu me disais aussi qu'à Wimbledon, tu as déjà vu des fermetures de toit dans des conditions pas forcément pluvieuses.
Et tu te demandes si c'est pas pour justement proposer un spectacle plus raffiné. Là, franchement, la différence entre le premier set des hommes, donc avec le vent et sans le vent, c'était le jour et la nuit. Alors ça a aussi changé peut-être la physionomie de la rencontre, même si Félix a très bien expliqué qu'il n'y avait pas de polémique à avoir, que les conditions de jeu étaient lourdes et que ça n'a rien changé. Mais moi, je pense au spectateur, parce que le spectateur aussi prend le vent dans la figure, les joueuses elles prennent les grains de sable dans la figure. Il n'y a aucun plaisir à jouer.
Est-ce qu'Eric te convainc ou est-ce que, bah, comme il y a marqué sur l'anneau, là on est sur le cours central, la victoire appartient au plus opiniâtre?
Ben exactement, j'entends ton argument, mais en fait c'est la porte ouverte à tout en fait.
C'est-à-dire que, je suis d'accord avec toi.
Je me contente de demi ou finale.
Oui, mais c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, quelqu'un qui arriverait en demi alors que pendant 10 jours il y a eu des... Et on a eu des semaines où il faisait un froid de canard, où vraiment, mais c'est limite si on n'autorisait pas les joueurs et les joueuses à jouer avec des leggings tellement il faisait froid. On en a eu des semaines comme ça. Mais par définition, jouer à Roland-Garros sur terre battue, en extérieur, tant qu'il pleut pas, ça fait partie de l'ADN du tennis. Donc en fait, je pense que si on accepte ce genre de situation, en fait, c'est la porte ouverte à tout. C'est qu'il y a un moment, s'il va faire trop chaud, on va changer toutes les règles, en fait. On va systématiquement changer toutes les règles. Et les questions d'équité à partir du moment où ça joue sur plusieurs courts, c'est-à-dire sur 15 jours, c'est pas un tournoi qui joue sur une semaine, des conditions identiques pour tout le monde, bah, ça fait malheureusement partie du jeu. Donc il y a des dégâts. Et je comprends que ça soit... Et j'ai été du côté de l'organisation. Et là, tu serres les dents, tu dis « Oh merde, l'affiche oh !» Et comment... J'entends. Mais sinon, c'est plus le sport, en fait. Non. Sinon, on modifie. Sinon, on va voir un concert. Tu vois ? On va voir un concert.
Tu sais que... dans le foot et dans le rugby, ils commencent à jouer avec le toit. Regarde, à Cardiff. Ils jouent souvent avec le toit parce qu'ils savent qu'il va flotter, parce qu'il va y avoir du vent. Le stadium de Villeneuve-d'Ascq.
Oui.
Moi, j'entends souvent le multiplay. Jean Baumel nous dit « Ah ben non, on joue avec le toit fermé. C'est comme ça. » Et pourquoi ?
Oui, c'est un match. T'as raison. J'entends, Eric, mais ça, c'est un match.
C'est pour le spectacle.
C'est pour que le spectacle soit de meilleure qualité.
Oui, mais le spectacle, il est sur un match. Là, le spectacle de Roland-Garros, c'est du premier dimanche, enfin en l'occurrence du premier lundi pour les qualifs, jusqu'au dimanche, 3 semaines après.
Tu n'as pas compris.
Tout, moi, tout je ça, te ça parle, je te parle des quarts qui se déroulent tous sur le même court,
oui.
Et des demi et des finales. Je trouve qu'on est dans la ligne droite. Au prix où sont les places, tu peux avoir un joli spectacle. Et là, ouais, eh bien, avec le toit, ça aurait été un autre
spectacle.
Match.
Le spectacle...
Et tu n'aurais pas été faire, je suis d'accord avec toi.
Je pense au spectacle. Oui, mais le spectacle, il est totalement subjectif. Je comprends ce que tu veux dire, mais il devient subjectif.
Juste rapidement, il y a eu un petit imbroglio sur la réponse, dans la réponse d'Arina Sabalenka, quand elle explique que l'an dernier, la finale homme... Alors, on croit savoir qu'elle parle de la finale de double qui s'est jouée juste après sa finale à elle contre Coco Gauff. Le toit avait été fermé. Là, si on regarde aujourd'hui aussi, Koboli, Félix Auger-Aliassime, tu viens d'en expliquer les raisons, le toit a aussi été fermé. Bon, il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est difficile à imaginer qu'il y ait un problème d'équité à ce niveau-là entre filles et garçons.
Alors, tu as raison de souligner ça parce qu'effectivement, et Sabalenka a de la mémoire, donc quelques heures après sa finale perdue contre Gauff, elle a le souvenir très précis donc, que la finale du double s'était déroulée avec le toit fermé à la lumière des projecteurs. Et concernant la fermeture du toit à 6-5 donc entre Auger-Aliassime et Koboli, j'ai eu un communiqué de Rémi Azemar. Alors je vais vous le lire, hein, c'est un texto, ça prend 4 lignes. S'agissant du match entre Félix Auger-Aliassime et Flavio Koboli, le toit a été fermé à 6-5 dans le premier set en raison d'une annonce de pluie. Il est ensuite resté fermé jusqu'au terme de la rencontre afin de garantir des conditions de jeu homogènes pour les deux joueurs. Alors une annonce de pluie, ok. Il n'a pas flotté.
Non.
Donc là, je trouve qu'il y a une erreur de casting. On aurait pu arrêter le match comme ça se fait souvent dans des tournois. Tu laisses les joueurs sur leur banc, tu leur mets un parapluie, tu attends de voir comment ça évolue et tu poursuis en extérieur. Là, ils ont fait de boulettes parce que, Sarah, moi j'ai regardé, pendant le deuxième, troisième et quatrième set, il n'a pas plu du tout.
On est d'accord. Mais alors, deux choses. Une, donc là, on est quel jour ?
Mercredi.
On est mercredi, je suis perdue. Mardi, on se souvient des rafales qui sont arrivées là ? Et la grêle qui est tombée en quelques secondes ? Il faut savoir que les phénomènes météorologiques, on peut savoir quand est-ce que ça arrive, mais on connaît pas la puissance. Donc peut-être qu'ils ont vu le nuage arriver et on a ramassé quand même hier des sortes de mini-typhons. Donc peut-être qu'ils ont envisagé qu'il y ait une puissance comme celle-là. Après, deuxio, quand tu fermes le toit, tu peux plus le rouvrir après. On est d'accord ? Qu'il y ait eu erreur ou pas. Donc de toute manière, il était fermé, il pouvait plus le rouvrir. Et encore une fois... Admettons qu'ils aient décidé de le laisser ouvert parce qu'il y avait une petite pluie, mais je pense que ce qui s'est passé la veille, avec les bourrasques en 10 minutes qui sont arrivées, les parapluies, ils auraient volé en 2 secondes. Hein, et le public, ça aurait été la panique parce que les gens ne pouvaient pas se protéger. Donc il faut aussi prendre en considération que la veille, l'organisateur, à un moment, a vu la puissance des choses et ils ont peut-être voulu être précautionneux. Eh ben oui, eh ben oui.
Bon, enfin, donc ils savent pas faire la différence entre un typhon et une bruine. Voilà. Bon, bah ok, non, mais c'est ce que je retiens, moi.
Juste rapidement, parce qu'on a parlé de Sabalenka, on a parlé du vent. Juste, s'il vous plaît, un petit mot sur la Russe, quand même, Diana Schneider. Première demi en Grand Chelem à 22 ans. Bon, elle a été solide dans son jeu, solide mentalement.
Fabuleux, chapeau à elle, elle s'est accrochée, elle y a toujours cru. Et puis, je ne veux pas en dire trop long, mais moi, j'ai plutôt envie d'insister sur la deuxième.
On va y venir. Bon, allez, on en parle. Maya Ralinska, qui continue sa folle épopée. Victoire 7-6, 6-3 face à la Russe Kalinskaya, celle qui avait dominé Diane Parry. Et alors, on a retrouvé ce tennis varié, atypique. Elle nous a refait sa petite cuisine, mais c'est une cuisine de grand chef.
Ah oui, ouais. Là, franchement... Ce petit gabarit qui possède autant de recettes pour jouer au tennis, c'est un véritable régal. Et je pense que les conditions d'aujourd'hui, elles étaient favorables à Schalinska. Parce qu'effectivement, la balle, elle était plus lourde. Et quand on a un jeu aussi stéréotypé que celui de Kalinskaya, qui joue sur une forme de cadence et de puissance, eh bien, c'était un peu annihilé par cette balle. D'ailleurs, on la voit aujourd'hui, les balles, elles étaient rouges. Ouais. C'est-à-dire que la terre battue ne s'enlevait pas tellement c'était humide. Ça collait, comme on dit. Donc, elle a bénéficié de conditions qui ont fait que son jeu était particulièrement adapté à la situation. Parce que hier, c'était mon interrogation. En fait, est-ce que c'était la vitesse de jeu et la puissance de Kalinskaya qui allait empêcher la Polonaise de jouer son jeu ? Mais là, elle a été fantastique. Enfin, c'est un régal. De voir ce tennis-là, c'est un régal. J'aurais rêvé, mais tu sais quoi ? Si j'avais été gauchère, j'aurais pu jouer quand même. Voilà.
Vous avez des étoiles dans les yeux. Quand vous parlez de Ralinska, Eric, c'est son 8e match gagné. Elle a battu Sakkari, Mertens, Parry, Kalinskaya. Elle fait des merveilles. Est-ce que cela peut devenir la nouvelle ? C'est la seule Emma Raducanu, vainqueur de Grand Chelem en sortant des qualifs.
T'as raison, c'est une stat incroyable, Emma Raducanu. Je voudrais aussi insister sur l'aspect financier.
Ouais.
En 12 jours de compète, elle a gagné autant tout au long de sa carrière, puisque là, elle est assurée d'un chèque de 750 000 euros. Et jusqu'alors, en faisant la conversion, elle avait gagné 744 491 euros. C'est une fille qui a eu des soucis aussi d'ordre mental, comme vous voulez. Elle s'est arrêtée parce qu'elle n'y arrivait pas. Donc là, je me mets à sa place. C'est une conte de fées, c'est une sorte de conte de fées, effectivement. Et moi, je me régale d'avant de ce duel de gauchère qui donc aura lieu jeudi après.
Bah demain.
Deuxième match, ouais. Non, ça va être. Mais vous trouvez pas quand même que Roland nous offre toujours des demi-finalistes assez improbables ? Moi, je me souviens de Podoroska,
oui.
De l'italienne Trevisan, et puis pas plus tard que l'an dernier.
Trevisan.
Mais n'oublions pas Louise Boisson aussi.
Oui.
Je vous rappelle pas son classement, Louise. Et autre, la conséquence de ce parcours de
Top 30, c'est ça ?
Ouais. Et puis surtout. on va voir si Wimbledon va lui filer une wildcard, parce qu'elle n'est pas dans le cut de Wimbledon. Donc elle se retrouve dans la même position que Loïs Boisson. Et si les Anglais lui filent une wildcard alors qu'ils n'avaient pas filé à Loïs, là je débarque outre-manche.
Schneider-Raninska demain, ça, jeudi.
Oui, bah, je crois qu'Eric a tout dit. Hein. Deux énormes surprises à ce stade de la compétition. Deux filles qui ont relevé le défi de ne pas être impressionnées de jouer sur le Philippe Châtrier. Qui ont, alors moins pour Schneider, mais des jeux un petit peu différents. Mais quand tu es gauchère, quoi qu'il arrive, ton jeu est construit un petit peu différemment. Après, Eric le dit, il y a eu des surprises, mais il y avait aussi de l'autre côté du tableau des joueuses qui étaient attendues. Là, c'est quand même pas évident hein, pour les gens qui suivent le tennis féminin ou qui le suivent pas de trouver des repères dans les affiches. Un petit peu Andreeva.
Oui, Andreeva Kostiuk, l'autre voilà, demi, qui est un petit peu plus...
Oui, mais Kostiuk, nous, on la connaît parce qu'elle vient de faire une campagne sur terre battue exceptionnelle. Elle a gagné, on rappelle, le tournoi de Rouen. Elle a gagné le tournoi de Madrid. Elle est à 100% de victoire sur terre battue. Mais pour le grand public, à part Andreeva, ça ne parle pas. Donc, j'espère que le public sera quand même au rendez-vous demain parce qu'on sait, je ne trahis aucun secret, que le jeudi est toujours le jour qui est le plus difficile à remplir pour le central. Donc voilà. Et pourtant, on va avoir, je pense, des belles bagarres. Après... qui en verra vainqueur, c'est super ouvert hein. c'est très ouvert des deux côtés.
Elle commence à être strappée un peu partout comme la polonaise hein. On a vu intérieur de la jambe, cuisse, ça va faire beaucoup et la russe elle a aussi une très belle main, donc je pense que Valinska aura du mal à peut-être à imposer son jeu aussi facilement que face à une fille un peu rigide comme Kalinskaya. Non mais en tout cas, c'est le match le plus important de leur carrière pour les deux. Donc, les nerfs, ça va jouer un rôle important, bien sûr.
Les demi-tableaux féminins, donc jeudi. On va passer aux messieurs et on aura donc le derby italien tant attendu en demi-finale. Fabio Coboli face à Matteo Arnaldis, qui nous assure aussi d'avoir un Italien en finale dimanche. Commençons par Flavio Coboli, qui a battu Félix Auger-Aliassim 4-6. 6-4, 6-4, 6-4, première demi en chelem à 24 ans pour un Flavio Coboli. Bon, depuis une semaine, on se dit que ça peut le faire hein, pour Coboli d'avancer peut-être en demi, voire pourquoi pas en finale. Et il a renversé le Canadien, surtout Eric.
Ouais, parce qu'il perd le premier. Alors après, on va pas revenir sur l'épisode du toit, mais franchement, je pense que ça n'a rien changé. D'ailleurs, il a été très, très fair-play là-dessus, Félix. Mais peut-être que Sarah en dira plus sur l'italien. Moi, je suis allé à la conf de Félix Auger-Aliassime parce que c'est un garçon que je suis. Et comme il parle français, je vais souvent le voir dans les grands chelems. Je n'ai jamais vu comme ça.
Le détruit.
Était destroyed. Il l'a dit en anglais. Et après, il a dit j'ai bientôt 26 ans et je vois que je ne progresse pas. Je vois que je ne progresse pas. Et il était au bout de sa vie. Et dit, ça peut remettre beaucoup de choses en question, j'ai l'impression, cette contre-performance, parce que oui, il avait un shot, comme on dit, dans le milieu pour aller chercher le plus grand titre de sa carrière, et il a déjà fait des demi. Mais là, il a vu le tableau, il n'y a pas de Sinner, pas d'Alcaraz, il était favori de sa moitié de tableau, et il s'est troué, et c'est vrai qu'on a vu les lacunes habituelles, j'ai envie de dire. Il a du mal à tenir l'échange en revers quand l'échange dure. Et bravo à Coboli qui a été très, très opportuniste. Il vit quand même...
Il vit sa meilleure vie.
Ouais. Mais non, mais c'est dingue s'il lui arrive parce qu'on sait que c'est un fouteux. Il a failli devenir pro à l'AS Roma. Il y a deux jours, il pose avec les joueurs du PSG. Il a même, je pense qu'il a touché la coupe aussi.
Et alors, il nous a livré une petite anecdote sympa. Oui, en conférence de presse, j'y étais. On lui a demandé s'il était superstitieux parce qu'il l'avait évoqué en début de quinzaine. Oui, parfois, je vais dans le même resto, je prends le même menu. Et puis, je vais tout le temps dans la même douche. Alors là, on ne comprend pas trop. Je prends la douche de Rafa Nadal. Sauf qu'un jour, il prend la douche de Rafa Nadal et qui c'est qui toque à la porte ? C'est Rafa Nadal qui lui dit « T'es gentil, ça fait 14 ans que j'ai cette douche-là, ça serait sympa, mon garçon, d'aller un petit peu plus vite. » Non mais il est, voilà, déjà je trouve que personnalité très, très sympathique, assez solaire, Flavio Coboli, et puis il est impressionnant, il n'a pas laissé grand-chose en cours de route, contrairement, on va y venir, à son adversaire, il a un vrai coup à jouer Coboli.
Ah bah oui, surtout quand tu vois que le match était quand même bien entamé, enfin... Bien entamé pour Félix qui menait un 7-1 break. Hein. Et on sentait Koboli un peu fatigué physiquement. Enfin, on voyait pas bien comment il pouvait retourner à la situation. J'ai envie de dire que c'est Félix qui l'a remis dans le sens de la marche. Malheureusement, ou heureusement pour lui. En tout cas, dis-moi, les journalistes italiens, ils sont comme des fous, là.
Bah, il vaut mieux.
Parce que jeudi dernier, ils étaient au fond du trou. Hein.
Là, ça va. Oui, non, mais c'est un truc de fou, ça. Moi, je suis dépité. Non, je suis dépité parce qu'ils ont une recette et on est incapable d'aller les copier, quoi. Incapable d'aller les copier. Donc, en fait, à chaque fois que le tennis italien, c'est pas le numéro un mondial, parce que les numéros un mondiaux, j'ai envie de dire, ils viennent un peu de partout. Je pense qu'il y a pas une. On peut pas faire une règle pour devenir numéro un mondial. C'est des gens au-delà de l'exceptionnel. Mais la masse de joueurs. Ce sont des règles, ça vient d'une formation, ça vient d'une patte, ça vient d'un enseignement, comme on parle du tennis tchèque, comme on parle du tennis espagnol. Mmh. Et moi, à chaque fois qu'il y a les joueurs italiens en nombre, en fait, ça me renvoie aux limites de dire mais pourquoi nous on n'y arrive pas, en fait. Donc en fait, ça me fait deux fois plus mal. J'observe et en plus, je dis mais comment fait-on?
Surtout l'année où Sinner.
Exactement. Comment fait-on pour ne pas être au rendez-vous, que ça soit en simple, que ça soit chez les hommes, chez les femmes, en double, parce que en double ils sont encore là, les Italiens. Hein. En double mixte, on a encore une paire italienne. En fait, ils sont là partout. Et ça me renvoie à ce que nous on n'arrive pas à faire depuis un grand nombre d'années maintenant.
Et oui, d'un derby italien à un autre, puisque Flavio Koboli à Eric affrontera Matteo Arnaldi. Alors lui, c'est le revenant, c'est le guerrier, c'est le gladiator de cette édition. Mais là, il a eu un petit coup de pouce, un petit coup de chance, on va dire, puisqu'il a profité de l'abandon de l'autre Matteo Berrettini. 7-5, 5-2, ça jouait depuis 2 heures. Alors déjà, Eric, avant de parler d'Arnaldi, on a énormément de peine pour Matteo Berrettini, qui revenait bien et qui est encore stoppé... en plein vol, blessure au haut de la cuisse.
Ouais, en haut de la cuisse droite, on a vu les images, effectivement, il s'est fait très mal. Alors, il a pris un tournant médical, mais il n'y avait plus rien à faire. Et il a voulu insister, et là, je pense qu'il a aggravé la blessure. Je pense qu'il a ressenti le fameux coup de couteau. Et il est allé à sa chaise au changement de côté à 5-2, donc il n'a pas encore, à ce moment-là, il n'a pas abandonné. Arnaldi, il est en attente, au fond de cours, parce qu'il devait recevoir le service. Et puis, à un moment, l'arbitre demande à Matteo « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Matteo, il est quasiment en pleurs. Quoi. Et là, Arnaldi se dirige vers Matteo. Il y a une belle accolade. Mmh. Mais c'est terrible parce que j'ai regardé son activité. Là, Rome 2025, il abandonne. Donc, il ne joue pas Roland dans la foulée l'an passé. Tokyo 2024, il abandonne contre Arthur Fils. Melbourne 2024, il est forfait juste après le tirage au sort. US Open 2023, il abandonne contre Arthur Guyentnesh, il se fait mal à la cheville. Monte Carlo 2023, c'était des obliques. Acapulco, Runeux, enfin, toutes les parties du corps, il passe. C'est ça qui est terrible. Et franchement, on est dépité pour lui. En plus, je ne sais pas s'il va pouvoir jouer à Wimbledon, mais c'est une surface sur laquelle il excelle.
Ancien finaliste.
Ancien finaliste, donc là... ça paraît compromis, quoi. Je pense qu'il a pris une petite déchirure et on ne s'en met pas comme ça, quoi.
Bon, à contrario, c'est le petit coup de pouce quand même pour Matteo Arnaldi. 19h42 passé sur le court. Eric, tu pourras en reparler si tu veux après, nous disait que c'était un record. Bon, ça va quand même l'aider parce qu'en plus, il va avoir 2 jours de récup, à être un peu mieux face à Koboli en demi.
Oui, parce qu'effectivement, il s'est sorti de situation complètement invraisemblable, hein, Arnaldi. Il est quoi ? Il est tout juste top 100, hein. Il a un classement, il était... 104, 105, ouais, en plus, c'est un des derniers rentrants dans le tableau final. Certes, ce n'est pas son niveau de jeu, on sait qu'il était top 30, donc il va revenir là où il était. Mais oui, il bénéficie d'un coup de pouce, et puis voilà, après, voir ce que ça va faire contre Arnaldi Koboli, ça, c'est quoi comme...
Un partout. J'ai regardé un partout, les deux matchs sur terre et victoire l'an dernier à Roland de Koboli en 4-7, 6-3, 6-3, 6-7, 6-1. Eric Koboli...
Alors, là, ça ne va pas être une question de toit ouvert, toit fermé, en diagonale, la pluie, pas la pluie. Quand il y a aussi deux compatriotes qui se jouent, quand on se connaît tellement bien... La qualité de tennis, elle peut être un peu plus délicate parce qu'on anticipe tellement le jeu adverse qu'on change le sien et qu'on connaît les réactions de son adversaire. Donc, pour essayer de le surprendre, on change ses propres réactions. Et donc, ça arrive que ça soit des matchs pas de très grande qualité. Donc là, ce ne sera pas une question de je t'ouvre ou je te ferme toi, quoi. Donc on attend de voir si cette demi-finale, et je pense que ce sera la première demi-finale.
Ah non, je crois pas. Non,
non, tu crois pas?
Ah ben non, en termes de récup, ils vont lancer, je pense, ce qui paraît logique. Là.
Oui, parce que j'ai dit une bêtise, il n'aura pas deux jours de récup, non, ce sont les deux autres qui ont deux jours de récup. Et effectivement, la logique, c'est Mensix VRF 1.
Qu'est-ce que je veux dire? Alors, oui, j'ajoute qu'ils se sont joués trois fois en challenge, donc ça fait, il y a 3-2 pour Analdi. Je voulais vous poser un petit quiz.
Ah bah oui, on aime ça.
Hein?
Allez.
Sarah, je pense jouer là. Ouais. Mais même si c'est, si tu réfléchis bien, tu peux trouver. C'est le cinquième joueur le plus mal classé de l'histoire à Roland à atteindre le dernier carré.
Alors.
Verkerk. Non, pas Verkerk.
Non, là, ça part fort. Hein.
Oh là là.
Alors déjà, je vous aide. Il y a deux Français dans le lot.
Il y a Quertel.
Non, il faut que tu ailles beaucoup plus loin au classement. Là. Il faut que c'est des mecs qui sont hors dehors.
Roger Vasselin.
Oui.
Roger Vasselin, père.
Ah, le père.
Oui, 83.
Okay. Et il y a un autre Français.
Ah oui,
encore. C'est plus vieux.
C'est avant.
Je ne sais pas si je l'aurais celui-là. Henri Lecomte.
Bien sûr, le vengeur masqué. Il était 200e mondial. Mais oui.
Je savais plus que Lecomte était 200e.
Ouais, Petre Corda en demi, c'est ça?
Donc il était wildcard.
Ouais, wildcard. Il avait battu Niklas Kulti, match fantastique en 5. Il était 200. Et les deux autres, je vous les donne. Ah, il y avait François Geoffrey aussi qui était 113, mais bon, là, ça remonte. Et le dernier, c'est Philippe de Wulff.
Tu te souviens? Ah oui, le Belge.
Qui était sorti des qualifs, 97.
Je m'en souviens très bien, celui-là.
Donc Arnaldi écrit une histoire fantastique. Ouais, non. C'était un bon quiz, ça.
C'était pas mal. Et ben, on verra ça vendredi et puis demain, jeudi. Ah,
je termine quand même sur une stat assez incroyable aussi, Sarah. Les deux numéros 1 mondiaux, donc Aryna Sabalenka et Jannik Sinner, on est à mi-saison, ils sont à zéro.
Zéro chelem. Oui, alors, ils sont à zéro chelem, mais il y en a un qui a gagné tous les tournes, tous les Master 1000, et Sabalenka, pas vraiment. Donc, ils ne sont pas tout à fait au même niveau en termes d'état de forme. Hein.
Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont à zéro. C'est qu'ils sont à zéro. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Mais ce Roland, c'est un chaos total.
Et il y en a un qui est toujours à zéro, c'est Zverev, mais c'est lui qu'on voit soulever le trophée. Dimanche, demain, jeudi, les demi-finales féminines. Et on se retrouve dans un nouveau numéro dès demain de cours numéro 1 pour débriefer tout ça. Merci les amis, ciao ciao.
Ciao ciao, bonne nuit.
Vive le vent, vive le vent.
RMC, cours numéro 1.